Et si la machine se retournait contre son créateur, automne 1932, en Angleterre, Harry May réunit des amis pour tester Alpha, son robot capable, dit-il, de tirer à l'arme à feu sur commande. Le métal est froid, la salle silencieuse, jusqu'à ce qu'Alpha, censé rester immobile, se lève et braque un pistolet vers son inventeur. Cri, panique, coup de feu, la presse s'emballe et titre « Le premier robot a attaqué son maître ». En réalité, l'arme avait juste glissé, déclenchant un tir accidentel et une petite brûlure à la main. Mais en pleine crise économique, à l'époque, l'opinion en est certaine, les machines se retourneront contre nous et nous remplacerons tous. Presque un siècle plus tard, OpenAI vient tout juste de lancer ChatGPT-5, la nouvelle version de son logiciel de traitement de langage. La peur que l'intelligence artificielle prenne le contrôle de notre quotidien remplace le mythe du robot tueur. Mon invité bataille depuis des années pour laisser ses croyances au rayon blockbuster. Bonjour Luc Julia.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur franco-américain, pionnier de l'intelligence artificielle et co-créateur de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Vous êtes directeur scientifique du groupe Renault. Grande figure de la tech, vous venez de publier au Cherche Midi votre essai IA générative, pas créative, un ouvrage qui démonte les idées reçues sur une intelligence artificielle pas si intelligente, selon vous. Mais si l'outil IA ne permettrait pas de créer, les équations si. En troisième partie, on a eu envie, avec l'équipe du MAG, de vous présenter Laurent De Robert. Il est docteur en sciences économiques et chercheur. Il est aussi inventeur des mathématiques existentielles, des formules poétiques grâce auxquelles on interroge nos rapports aux émotions. À 18h35, comme tous les soirs, ce sera le Panorama Culture, au programme des films d'animation générés par IA, du cirque, un petit coup de gueule et un podcast plein d'hémoglobine. Alors éteignez votre smartphone et votre monde connecté, posez votre oreille près de votre très vieux transistor. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Luc Julia, vous remettez en cause dans votre ouvrage le nom même d'IA. Pourquoi le terme intelligence pose problème d'emblée ?
Exactement, avec l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, par exemple, c'est que on peut tout de suite fantasmer sur le fait que cette intelligence artificielle est comme notre intelligence à nous. Et donc, bon, elle n'a strictement rien à voir, hein, donc c'est ce qu'on va certainement raconter tout de suite. Mais donc, c'est le terme intelligence est relié à nous, à notre cerveau, à notre savoir, à ce qu'on est. Malheureusement, le mot intelligence artificielle, quand il a été créé, les deux mots, quand ils ont été utilisés, c'était en 1956, hein, c'était il y a longtemps, c'était des Américains, et c'était le terme intelligence dans le sens information, parce qu'en anglais, le terme a deux définitions, d'un côté l'intelligence comme intelligence humaine, et de l'autre côté information, comme dans la CIA, par exemple, information, où on va chercher des informations. Mais bon, ça a été beaucoup plus sympathique à expliquer que ça allait nous remplacer. Et on a toujours très envie de se faire peur. Donc, voilà, c'était bien d'appeler ça intelligence artificielle et de le comparer avec nous-mêmes, alors que c'est incomparable.
On va rentrer plus dans le sujet de l'IA et puis même dans votre passage et votre parcours dans la Silicon Valley. Mais avant ça, on passe au moment test, au moment tartinage de SPF 50, Luc Julia. C'est le moment de savoir quel estivant vous êtes. C'est l'interview haute saison. Il ressemblait à quoi vous étiez quand vous étiez enfant, Luc Julia?
Bon, je pense que c'était comme tous les gamins de l'époque, hein, ou d'aujourd'hui d'ailleurs aussi, le plus possible dehors, à faire le plus possible de bêtises. Et dans mon cas, je bricolais pas mal. Quand je dis bricoler, c'est vraiment bricoler, hein, bricoler avec des machines déjà. Et sinon, du sport, dehors.
Voilà. Et les étés dans la Silicon Valley, ils ressemblent à quoi ?
Bon, les étés dans la Silicon Valley, ils sont studieux, je dirais, parce que déjà, aux États-Unis, on n'a que 15 jours de vacances, hein, pas 3 mois. Donc du coup, on travaille pendant 2 mois et demi, et on est en vacances pendant 15 jours, et en général, on ne reste pas dans la Silicon Valley. On s'échappe plutôt dans ce qui est autour. On connaît tous, ou on a tous entendu parler des parcs en Californie, et il y a vraiment de quoi faire pour s'échapper.
Votre pire stage ou job étudiant ? D'été.
Ben vous savez, j'ai eu du bol en fait, parce que j'ai toujours fait exactement ce que j'ai voulu, donc j'en ai pas. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait, donc de plagiste à Cannes, jusqu'à être dans des labos de recherche. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait.
Ben, beaucoup de chance alors. On va vous tirer le portrait, Luc Julia, et plonger dans votre expérience d'abord dans ce microcosme opaque qui est pour nous la Silicon Valley. Mais avant ça, j'ai envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans. On est en 1986. Malgré le soleil, des ados du monde entier mettent du col et s'habillent en noir en pleine The Cure mania. Et les téléspectateurs ont fait leurs adieux à l'émission emblématique d'aérobic Gym Tonic. Mais il se passe beaucoup d'autres choses, écoutez bien.
On nous a d'abord dit, aucune inquiétude, le nuage n'est pas passé en France. Ensuite on a dit, oui il est passé, mais comme il ne pleuvait pas, ce n'est pas grave du tout. Puis après on a dit, la radioactivité diminue en France. Étonnant puisqu'on ne nous avait jamais dit qu'elle avait augmenté. Alors où est la vérité et pourquoi la cache-t-on ?
Mais revenons un moment au Conseil européen à La Haye pour détailler avec Paul Amar la conférence de presse finale placée cette fois encore sous le signe de la cohabitation. Une histoire que l'on pourrait intituler « Deux chaises pour trois ».
L'ennemi est dangereux, mais toi t'es pire que l'ennemi. Tu es dangereux et con. Si t'aimes pas les gars avec qui tu voles, c'est ton droit. Eux, ils ont le même. Mais dans quel camp tu es ?
Cette fois, Gutenberg n'aura pas le dernier mot. Apple présente avec Macintosh l'édition personnelle.
Moi, ce que je pense, c'est que le meilleur hommage qu'on pourrait faire à Coluche, c'est que les gens continuent à donner lorsqu'ils entendront que les restaurants du cœur reprennent.
On a entendu Tchernobyl, une archive sur Tchernobyl et le nuage radioactif. On a évidemment entendu The Final Countdown de Europe. Je vous ai vu sourire, Luc Julia. Un extrait de Top Gun, une publicité pour le Macintosh d'Apple. Puis la mort de Coluche. Vous vous souvenez de l'été de vos 20 ans, Luc Julia ?
Moi, je ne me souviens pas en particulier, mais évidemment, tous ces événements-là, ça revient quand on en parle. Tous, en fait, Tchernobyl un peu moins, parce que en fait, on n'en parlait pas trop, hein, c'était fait exprès, on cachait plutôt le truc sous la couverture qu'autre chose. Mais sinon, tout le reste, oui, évidemment, bon, la musique, évidemment, Coluche, évidemment. Et donc, oui, il y a plein de choses dont je me rappelle. Mais je ne sais pas exactement ce que j'ai fait à l'été 86. Mais ce que je pense, c'est que j'étais certainement en train de tripoter des ordinateurs.
On va justement parler de ce tripotage avec vous. On reste d'ailleurs en 1986 et on prend notre meilleure voix de tête pour chanter Kiss de Prince à retrouver sur l'album Parade.
France Inter, le Mac de l'été, Constance Villanova.
Est-ce qu'on peut penser, par exemple, que dans l'avenir, il puisse y avoir des ordinateurs dans la maison de l'Américain moyen?
C'était possible, enfin, dans la mesure où ces ordinateurs seront de plus en plus inefficients, de moins en moins bien utilisés. En somme, une voiture auto-américaine est une machine exorbitante, enfin, un nombre de chevaux colossal que très peu de gens utilisent en général. Dans la mesure où on veut que l'ordinateur soit porté à tout le monde, il faut qu'il devienne de plus en plus simple en ce qui concerne l'utilisateur.
Extrait de l'émission 20e siècle diffusée en 1971 sur l'ORTF, on y entend le mathématicien polono-franco-américain Benoît Mandelbrot. Années 70, où les balbutiements du micro-ordinateur, Luc Julia, c'est quoi votre tout premier souvenir d'ordinateur? Il me semble que vous avez pas mal trifouillé, pianoté sur le PET 2001 sorti en 77.
Ouais, bah c'était à peu près ça, je pense que c'était en 78-79. Donc j'avais 12-13 ans j'ai eu la chance de pouvoir toucher un de ces PET 2001, donc qui était un des premiers ordinateurs personnels.
Pour nos auditeurs, ça ressemble à quoi physiquement un PET 2001?
C'était rigolo, ça ressemble beaucoup à ce que vous pourriez imaginer un Macintosh tout intégré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait l'écran, le clavier et le lecteur de cassette, je dis bien le lecteur de cassette, intégré. Et donc c'était un truc en ferraille, en fer, hein. C'était du métal, toute la coque était en métal, ce qui faisait que de temps en temps, souvent d'ailleurs, je prenais une petite décharge électrique quand je touchais le coin de l'écran. Et donc l'écran est vert, avec 25 lignes, c'est un des premiers ordinateurs, 4K de mémoire, pour ceux qui peuvent imaginer, aujourd'hui on parle de méga et de giga de mémoire, 4K c'est 4000 octets, donc c'est rien du tout par rapport aux millions et milliards qu'on a aujourd'hui, mais c'était absolument extraordinaire, parce que, alors on pouvait faire ce que était normal de faire sur l'ordinateur, mais on pouvait aussi le tripoter, justement, et le magouiller, on va dire, pour le comprendre, et lui faire des choses extraordinaires qu'il n'était pas censé faire. Bon, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui du piratage, des choses comme ça, mais c'était absolument fantastique, parce qu'on avait l'opportunité d'apprendre relativement rapidement, quand on avait envie de chercher un peu, et de fouiller, et c'était très très intéressant.
Vous avez à peu près 12-13 ans, c'est ça, à cette époque-là? Comment ça se fait que vous ayez un ordinateur chez vous? C'est rare à cette époque-là?
C'était pas chez moi, ma mère était directrice d'une école, et d'une manière, je sais pas comment, elle a touché cet ordinateur pour son école. Et donc j'ai eu la chance d'avoir accès, évidemment, parce qu'on habitait dans l'école, donc c'était pas très compliqué. Et du coup, ça m'a permis rapidement de donner des cours dans cette école, d'ailleurs. Je donnais des cours aux profs, je donnais des cours après. On a créé une association locale de la ville dans laquelle on était, dans le village dans lequel on était, où il y avait des adultes, donc ils venaient prendre des cours, et c'est moi qui donnais les cours. Et puis évidemment, après, j'ai touché de plus en plus d'ordinateurs divers et variés, parce que ça a commencé vraiment dans les années 80, après à se démocratiser, on va dire.
On fait du coup un petit saut en avant. Vous faites votre master, vous commencez vos études en France et vous migrez vers les États-Unis. Pourquoi ?
Alors depuis que j'avais 5 ans, hein, ce qui est un peu bizarre, je disais à mes parents que je voulais être chercheur au CNRS. Bon, je sais pas comment ça m'a mis ça dans la tête, j'en sais rien, mais c'est certainement eux, quelque part, qui m'ont mis ça dans la tête quand j'étais tout petit. Et donc, j'ai réussi à rentrer au CNRS pour faire ma thèse dans les années 80, à la fin des années 80, je pense. Début 90. Et là, j'ai été très très déçu. En fait, ça a été une déception absolument terrible, parce que c'était pas du tout ce que j'avais pu imaginer. Pour moi, la recherche, et d'ailleurs pour moi, tout ce qui est regarder, trouver des choses, parce que je disais d'ailleurs que je voulais être trouveur en informatique et pas chercheur en informatique. Et trouver, pour moi, c'est pas trouver tout seul, c'est trouver avec des gens, parce qu'on n'est jamais assez intelligent tout seul. Et le jour où ma chef du CNRS m'a dit... T'es gentil, mais tu travailles plus avec le laboratoire du CNRS de Grenoble. J'étais à Paris, moi, URA 820, unité de recherche appliquée, je pense. 820 à Paris, à Télécom Paris. Elle m'a dit, tu travailles plus avec les gens de Grenoble, du CNRS aussi, hein, parce que sinon, ils vont avoir plus de sous que nous. Et ça m'a absolument détruit. Ça a détruit mon rêve, en quelque sorte. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de partir. Et bon, j'avais la chance d'avoir écrit quelques petits articles qui avaient été un peu reconnus, on va dire. Et donc, j'ai pu partir au MIT, aux États-Unis, à Boston, qui n'était pas une mauvaise chose, finalement.
Est-ce que, après ce MIT, vous vous souvenez de la première fois que vous avez posé le pied dans la Silicon Valley, et quel sentiment ça vous a procuré à ce moment-là?
Ouais, alors, pendant que j'étais au MIT, j'avais été une fois dans la Silicon Valley comme ça pour aller voir un copain qui travaillait là-bas. Mais bon, j'avais pas vraiment, on avait juste fait un peu le tour, mais on n'avait pas vraiment senti la Silicon Valley. Par contre, en octobre de l'année où j'étais arrivé au MIT, je me suis rendu compte qu'il commençait à faire frais un peu à Boston. Et moi, le frais, j'aime pas trop, en fait. Et je suis de Toulouse, donc j'aime bien quand il fait 40, comme aujourd'hui. Je me suis dit, il faut que je parte de Boston parce que pelleter la neige devant la porte, ça va pas le faire. Et j'ai eu la chance, encore une fois, qu'on me propose quelque chose à Stanford. Et là, j'ai découvert la Silicon Valley. Et dans les premiers jours, j'ai découvert ce que c'était cet esprit de la Silicon Valley que je loue à chaque fois. Alors évidemment, il y a plein de gens qui peuvent le critiquer, qui peuvent me dire que ça change et tout ça. Mais cet esprit de la Silicon Valley, il est assez extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment le même esprit que la ruée vers l'or. Sauf que l'or, aujourd'hui, c'est l'informatique ou je ne sais quoi, enfin tous les trucs technologiques qu'on peut imaginer. Donc c'est cet esprit-là que j'ai découvert relativement rapidement, dès que j'ai posé un pied là-bas, parce que j'étais dans une conférence, en fait, qui avait lieu tous les mois, et qui était dans ma spécialité, qui s'appelait BKI, Bay comme Bay Area, comme la baie de San Francisco. Et KI, c'est Computer Human Interaction, c'est interface homme-machine, qui était exactement ce que je faisais. Et donc, quand je suis arrivé à BKI, j'ai découvert ce que c'était vraiment la collaboration.
Mais justement, collaboration, vous avez parlé de Stanford. Depuis les années 50, Stanford, c'est donc une université américaine qui collabore avec des entreprises, en fait, c'est ça. On mélange la recherche, la tech et l'entreprise sur le même territoire. C'est ce modèle recherche plus business qui, selon vous, fait le succès de cette région?
Oui, ben c'est ça, c'est qu'on ne fait pas de la recherche pour la recherche, on fait de la recherche pour quelque chose. Alors il y en a qui font de la recherche pour l'argent, il y en a qui font de la recherche pour les vrais gens. C'est plutôt mon cas à moi, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de créer des technologies, de jouer avec des technologies pour des fois les déformer, afin de créer des choses qui vont être vraiment utiles aux vrais gens. Et donc ça, pour être utile aux vrais gens, il faut aller les toucher quelque part, et pour les toucher, il faut créer des compagnies, il faut aller mettre vos technologies dans les compagnies qui peuvent les vendre, etc., etc. Donc effectivement, ce couple de recherche plus business, c'est quelque chose qui fait un des secrets de la Silicon Valley.
Puis la Silicon Valley, elle adore les mythes aussi. Hein. Steve Jobs dans son garage, Hewlett-Packard aussi. Ces récits de génies un peu solitaires qui ont une sorte d'eureka d'un coup, est-ce que c'est une illusion selon vous?
Hewlett-Packard, ils étaient deux,
oui, c'est vrai.
Dans leur garage, et Steve Jobs, il n'a jamais été dans un garage. Donc,
mais il y a quand même sur l'itinéraire de la visite de la Silicon Valley, il y a le petit passage, le petit détour par ce garage mythique.
Ouais. Et donc, c'est mythique dans le sens où on est au début quand on crée une compagnie, et j'ai créé quelques startups aussi, donc c'est quelque chose qui a été la vérité, ma vraie vie à un moment donné, c'est qu'on est tout seul ou pas beaucoup à faire quelque chose tous ensemble avec pas beaucoup d'argent, à bricoler quelque chose dans un garage, c'est dans une petite maison en fait qu'on avait louée à Menlo Park, et donc on crée ce truc en espérant qu'on va pouvoir aller exciter ce qu'on appelle les venture capitalistes, les gens qui vont avoir les sous pour aller nous donner des sous pour vraiment concrétiser cette compagnie, ou alors aller le vendre à une plus grosse compagnie pour voir s'ils sont intéressés. Donc oui, effectivement, il y a définitivement ce mythe qui n'est pas un mythe.
Vous créez Siri au début des années 2000, c'est ça, en 2007. Déjà, pourquoi ce nom? Pourquoi Siri?
Alors,
l'assistant vocal d'Apple.
L'assistant vocal d'Apple, alors, on a créé, en fait, on a fait les premières patents, les premiers brevets en 1997 en fait.
Assistant, c'est ça?
The assistant, exactement. Donc l'assistant, parce que c'était un assistant et c'est ce que c'est aujourd'hui toujours. Et le mot Siri, le nom Siri, ben on laisse en fait le mythe justement s'installer, et on s'est juré de ne jamais dire d'où vient le nom.
C'est vrai?
Oui.
Ok, bon, j'aurais pas ma réponse. Et vous avez refusé pendant plusieurs semaines de le vendre à Steve Jobs, Siri. Vous nous racontez un peu...
Oui, en fait, bon, c'est vrai qu'Apple, dans la Silicon Valley, n'était pas à l'époque la compagnie la plus ouverte, on va dire, à cette collaboration dont je parlais tout à l'heure, et cette coopétition, hein, ce qu'on appelle la coopétition, donc on collabore tout en étant concurrent. Et Apple donc n'était pas vraiment ouvert, n'était pas trop dans le mouvement open source et tout ça, était cher. Enfin bon, il y avait plein de raisons pour lesquelles nous c'était pas exactement ce qu'on pensait qui allait pouvoir attirer le plus de gens, parce qu'encore une fois, on faisait ça pour le plus grand nombre de gens possible. Bon, on s'est trompé évidemment, parce qu'aujourd'hui il y a 500 millions de personnes qui l'utilisent, donc c'est pas trop mal point du nombre. mais voilà, donc oui, effectivement au début on pensait pas que c'était le bon endroit, et surtout que en 2007, la date de 2007 que vous avez donnée, c'était 2007-2008 quand Siri était sur Android. Donc évidemment c'était du travail de le passer sur iOS, sur les téléphones, sur les iPhones.
Si on parle de la Silicon Valley de 2025 d'aujourd'hui, donc longtemps la Silicon Valley ça a été un bastion assez démocrate, progressiste, et on voit qu'il y a un virage Musk qui soutient ou qui soutenait, parce qu'il y a une sorte de divorce et de rupture amoureuse, Donald Trump, Peter Thiel également. Comment expliquer que ce bastion anciennement démocrate prenne le virage trumpiste, voire ultra-conservateur aujourd'hui?
Alors il faut expliquer ça à l'aune du business en fait. Déjà il faut comprendre que 78% des gens à Silicon Valley ont voté démocrate hein, récemment, donc 78% c'est quand même une bonne majorité. Mais c'est vrai que les têtes de pont, les gens qu'on voit et les gens qu'on entend, les Zuckerberg, les Musk et autres Thiel dont vous parlez, bien que Thiel ne soit plus dans la Silicon Valley depuis longtemps, ceux-là effectivement ils ont viré, on va dire, leur cutie. Juste pour des raisons business, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il vaut mieux être du côté de Trump que en face de lui. Le seul qui résiste un tout petit peu, et bon, je suis pas un Apple fanboy hein, toujours aujourd'hui, c'est Tim Cook, le PDG d'Apple, qui résiste un peu. Il a été au couronnement de Trump évidemment, mais il résiste un peu en continuant les politiques de diversité qui sont maintenant interdites. Par exemple, c'est Facebook ou évidemment chez Tesla et autres.
On va se plonger dans votre nouveau livre, Luc Julia, IA générative, mais pas créative, publié cet été. Mais d'abord, ça sera un petit panorama culture, ce sera après Favorite, un peu mélancolique, on écoute Yoa sur Sad Girl.
Oh oh, je dois tout recommencer, recommencer. Oh oh, réécrire comme je l'avais pensé.
Sad Girl de Yoa qui poursuit sa tournée. Elle sera au Festival du Roi Arthur le 24 août, au Francofolie de La Réunion le 5 septembre et Salle Pleyel les 29 et 30 janvier.
Le mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours, pile poil au moment de l'apéro, le mag de l'été passe en mode vigie culturelle. C'est le moment panorama.
इश्क में जी जो की गुस्ताखियां, मैं उन मन मर्जियों की सजा हूं। जिंदगी हूं या हूं ख्वाब कोई, या एक अजनबी की बस रजा हूं। हैवानियत के रंग में भीगा हुआ एक पल हूं मैं।
Extrait de Maharaja in Denims, le premier film presque entièrement généré par IA au printemps 2024. Que diriez-vous, chers auditeurs, de vous prêter au jeu et de créer votre propre film? Amazon va proposer désormais une plateforme showrunner qui permet à chacun de créer sa propre série d'animation. L'idée est transformer le spectacle passif en véritable architecte de fiction, le spectateur passif, pardon. On parlait du Netflix de l'IA, une aubaine dans l'ère du contenu sur mesure et un risque de fronde monumentale du côté des studios d'animation.
J'avais peur des clowns. j'ai toujours eu très peur des clowns. Je crois que c'est parce que je les connaissais dans la vie et que je n'arrivais pas à faire le décalage. Enfin, qu'il fallait, ils ne gardaient pas pour moi leur mystère. Je ne comprenais pas. J'ai eu peur des clowns très longtemps. Je ne devrais pas le dire.
La géniale Annie Fratellini, clown, qui avait peur des clowns et qui a créé sa propre école depuis près de 40 ans. Nexon en Nouvelle-Aquitaine vibre au rythme du cirque contemporain, héritage d'Annie Fratellini et Pierre Etex qui y plantaient leur chapiteau en 1987. Devenu pôle national cirque, le cirque avec un S perpétue cette énergie avec le festival Multipiste. Rendez-vous estival mêlant renouveau et poésie des corps. Toutes les infos du festival d'été Multipiste sont à retrouver sur le site du cirque avec un S. Chaque matin, pour me rendre à la radio, perché sur mon biclou, je traverse les berges de Seine. Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre des airs gothiques et de tomber sur le Mercredi Beach Club, un événement Netflix en partenariat avec la mairie de Paris. À l'occasion de la sortie de la saison 2 de Mercredi, série consacrée à la cadette de la famille Adams, transat, bar lugubre et musique goth sur sable noir. Un coup marketing bien huilé, mais qui rappelle cette drôle de mode des grandes villes livrées aux multinationales. On se souvient du Pont Neuf privatisé par LVMH pour un défilé en 2023, de la Tour Eiffel fermée pour des marques ou des boîtes de VTC qui posent leur nom sur des bistrots. Les grandes manifestations culturelles ne sont pas non plus épargnées. On pense au Printemps de Bourges Crédit Mutuel. Avec la bénédiction des édiles, les villes deviennent des vitrines où on se demande parfois si l'on est invité ou toléré. Alain Damasio, l'auteur, l'a déjà imaginé dans Les Furtifs, où Lyon devient par exemple Nest-Lyon.
Mesdames, Messieurs, un notaire parisien assassiné en plein Paris. Maurice Régent a été retrouvé mort dans la cave de son étude de la rue Saint-Fiacre. C'est dans le deuxième arrondissement de la capitale. C'est le gardien de l'immeuble qui a découvert le corps. Maître Régent a reçu plusieurs coups de marteau. Il avait le crâne fracassé. La brigade criminelle a été chargée de l'enquête.
Parce que l'été, on adore se faire peur en lisant des numéros de magazines spéciales faits divers, direction Arte Radio, avec cette enquête familiale qui prend des airs de polar. Qui a tué Maurice? Le 3 juin 1980, Maurice Régent, notaire parisien, est retrouvé dans la cave de son étude, le crâne fracassé. 40 ans plus tard, sa petite fille Louise Régent rouvre le dossier, fouille les archives, interroge experts et témoins et exhume même une piste oublié par la police, le tout avec l'aide de l'écrivain qui dissèque les affaires criminelles d'une pub acérée, Philippe Génada. Entre peur héritée, tabou familial et suspense digne d'une série, ce podcast de 5 épisodes nous entraîne dans un vertigineux jeu de pistes, une quête sombre à écouter en plein soleil.
Mais où t'étais passé? Je te trouvais nulle part.
Je faisais une mise à jour de mon noyau. On a écrit une nouvelle version qui nous permet de nous affranchir de la matière.
Quoi? Qui ça?
Je fais ça avec un groupe d'OS. T'as l'air complètement affolé, excuse-moi.
Mais évidemment. Attends, tu... Attends, j'arrive plus à suivre, là. Tu parles de quel groupe?
Tu les connais pas.
Quand on est tous les deux, tu parles à d'autres gens?
Oui.
Et là, tu t'es en train de parler à quelqu'un? Des gens, des groupes d'OS, ou des ordines, ou d'autres trucs?
Oui.
Dis-moi combien ils sont.
8316.
Un extrait de Her réalisé par Spike Jonze, sorti en 2013, film formidable dans lequel le héros, donc Joaquin Phoenix, tombe éperdument amoureux d'un assistant vocal. Je suis toujours avec vous, Luc Julia. Dans votre livre, vous expliquez que le principal mythe à combattre, c'est l'anthropomorphisation, je l'avais dit bien du premier coup, de l'IA, donc le fait d'humaniser un objet, un outil, et de le personnifier. Parce qu'on projetterait en fait des intentions humaines sur des machines comme ChatGPT. Qu'est-ce que ça révèle de notre rapport à la technologie ?
Encore une fois, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est des fantasmes. C'est-à-dire que on se projette parce qu'on se comprend nous, et donc on aimerait bien que ces choses qu'on crée soient aussi fortes que nous et qu'on puisse les pousser dans les retranchements où on peut pas forcément pousser les humains. C'est plus facile, c'est plus rigolo d'imaginer que ces machines ont une âme et ont un cerveau ou une intelligence que de les imaginer comme des trucs complètement idiots, ce qu'elles sont en fait.
Vous allez à rebours aussi de la panique ambiante sur l'emploi. Vous dites que l'IA ne va pas tuer tous les métiers. Il y a des secteurs où on commence à constater certains postes supprimés. Comment vous argumentez pour déconstruire ce mythe-là, justement ?
Alors déjà, j'argumente en fonction de toutes ces études, qui sont des études complètement ridicules, où on nous dit 35 millions d'emplois vont être supprimés d'ici 2030. Enfin, c'est des études que j'appelle au doigt mouillé, hein, donc qui n'ont strictement aucun intérêt, à part pour les gens qui les créent, ces études, parce qu'on les paie pour ça. Malheureusement, quand vous regardez ces études, ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est que vous avez exactement les mêmes études qui étaient faites dans les années 2000, début des années 2000, vous changez le mot intelligence artificielle par le mot Internet, et vous avez les mêmes études. Internet va supprimer 35 millions d'emplois. Bon, on a vu que c'était pas tout à fait le cas, au contraire. Et donc, la façon dont j'argumente, c'est je me sers d'un philosophe qui s'appelle Schumpeter, qui a étudié ce qui s'est passé avec la vraie révolution industrielle au 19e siècle. Et pareil, à ce moment-là, on disait les machines vont supprimer des emplois. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ça avait créé des emplois. C'est ce qu'on appelle la destruction créative c'est ce qu'il appelle la destruction créative. Donc, ça détruit quelques tâches, mais ça en crée de nouvelles et ça crée de nouveaux métiers aussi. Donc du coup, net, quand on regarde à la fin, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus, ça dépend des secteurs, mais il y a plus d'emplois qui sont créés que d'emplois qui sont éliminés.
Vous parlez évidemment d'aberrations écologiques. Hein. Les modèles comme ChatGPT consomment des ressources délirantes pour une pertinence assez douteuse. Dans votre livre, vous dites que l'avenir, ce ne sont pas ces super intelligences artificielles ultra généralistes, mais des IA spécialisées, des IA locales et déconnectées du cloud. Est-ce que vous pouvez vulgariser, banaliser ça pour nos auditeurs ?
Oui, alors bon, aujourd'hui, la course des ChatGPT et autres, et donc on voit avec GPT-5 qui est sorti effectivement là, c'est encore pire, c'est-à-dire que ça utilise énormément de ressources, ça utilise énormément de cloud. Et donc, on voit que c'est pas viable d'une manière purement écologique, parce que ça utilise beaucoup, beaucoup trop de ressources. Et donc, effectivement, là...
Il n'y aura jamais assez de data center pour...
Jamais assez de data center, jamais assez d'énergie, jamais assez d'eau. Ce qui est un peu embêtant. Et on voit effectivement que la nouvelle trend, la nouvelle mode, dans la Silicon Valley, il y a deux grandes écoles, on va dire. Il y a l'école Trumpiste, on va dire, qui est l'école des Musk et autres Sam Altman, qui sont dans la course au gigantisme. Donc ça, c'est l'école qui, je pense, va mourir bientôt. Et puis, il y a l'autre école qui est l'école de la source à l'utile. Et la course à l'utile, on crée effectivement des IA qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus frugales, qui utilisent beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de ressources, qui sont locales en général, donc c'est pas la peine qu'elles soient dans le cloud, bien qu'elles puissent être dans le cloud, hein, le cloud n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais donc elles sont surtout beaucoup plus petites, et étant beaucoup plus petites, donc elles sont beaucoup plus spécialisées dans des domaines particuliers, et on voit ce qui s'appelle aujourd'hui l'IA agentique. Et l'IA agentique, c'est quoi ? C'est des petits agents, donc plein de petites IA différentes qui vont collaborer entre elles. Et on crée des sortes d'orchestrateurs qui vont faire en sorte d'orchestrer ces IA pour qu'elles puissent délivrer des tâches qui sont des tâches complexes, mais très très spécialisées, très spécifiques à un domaine particulier. Et ça, je pense que c'est l'avenir, c'est ce qui se passe en ce moment dans une bonne partie de la Silicon Valley, encore une fois celle qui n'est pas dans la course au gigantisme, qui existe aussi.
Et si on reste dans la course du gigantisme justement, j'aimerais que vous nous parliez du biais culturel. Les IA comme ChatGPT en sont entraînés sur des bases de données très occidentales, anglo-saxonnes, anglo-saxonne. Ça se sent vraiment dans les réponses. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'imposer une vision américaine du monde avec beaucoup de biais, parfois sexistes, voire racistes?
Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, il ne faut pas se cacher la face. Hein, 70% d'Internet est américain. D'accord. Donc, ces IA sont basées sur Internet. Hein. Donc, du coup, ça veut dire quoi? C'est vrai que ces IA sont basées sur les données américaines, qui ne sont pas forcément fiables. Hein. On a vu ça, on voit ça avec les Trump et autres qui racontent n'importe quoi. Donc, c'est sûr que ça n'arrange pas la fiabilité potentielle de ces IA quand elles essayent d'être génériques. Et donc, du coup, il y a un biais définitivement culturel aujourd'hui qui est un biais américain, puisque toutes ces IA dont on parle, la plupart de ces IA sont des IA que j'appelle de la côte ouest, hein, donc tout ce qui va être ChatGPT, Gemini, enfin, toutes ces IA-là sont définitivement là-bas, dans la Silicon Valley ou pas loin. Il y en a très peu qui sont d'ailleurs, et même celles qui sont d'ailleurs, elles ont besoin des financements qui viennent en général de la Silicon Valley. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc moi, ce que je dis, c'est que il faut assumer un biais, c'est-à-dire que idéalement, les mathématiciens et surtout les data scientists qui créent ces IA, qui créent ces modèles, ils espèrent toujours avoir l'idéal. L'idéal, ce sont des données vraies, des bonnes données, ce qu'ils appellent les bonnes données. Et donc les bonnes données, c'est des données sans biais. Mais malheureusement, quand vous parlez de milliards de données, c'est impossible de ne pas avoir de biais. On ne peut pas aller
chercher... Des données d'ailleurs qui sont souvent générées elles-mêmes par IA.
Voilà, et donc elles-mêmes, elles génèrent des bêtises, etc. Ouais. Et donc elles se biaisent elles-mêmes. Et donc du coup, bah, c'est impossible de ne pas avoir des IA biaisées. Et donc du coup, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, moi je dis, bah, il ne faut pas hésiter à biaiser les données et à assumer le fait qu'on va biaiser. Et par exemple, aujourd'hui, si vous demandez à une IA qui a inventé l'aviation, elle va vous répondre que ce sont les frères Wright en 1903 aux États-Unis, d'accord ? Et évidemment, nous, Français, on a appris à l'école que c'est Clément Ader 13 ans avant, en 1890. Donc, le biais est intéressant ici. Bon, on peut toujours discuter ce que c'est que l'aviation. Est-ce que c'est les frères Wright ? Est-ce que c'est Ader ? On ne sait pas, mais bon, on peut en discuter. En tout cas, moi, ce que je voudrais, c'est une IA qui réponde Clément Ader. Et donc, je pense qu'il faut qu'on crée une IA française, une IA européenne, une IA africaine, une IA singapourienne, qui ait les biais culturels de ces pays, de ces cultures.
Et ça, mais on a les moyens de rester dans la course, nous, par exemple, en France, par rapport à ces mastodontes ?
Bah oui, on peut si on a envie. Le truc, c'est qu'il faut aller choisir, donc justement, les données. Donc à partir du moment où on dit choisir, à partir du moment où il y a un choix, bah, il y a un biais. Mais il ne faut pas hésiter. Je pense qu'on a les moyens technologiques, ça c'est sûr. On voit ça avec Mistral, par exemple, et d'autres compagnies, beaucoup de compagnies.
Qui est la figure de proue de l'IA en France.
Exactement. Donc, et puis il y en a d'autres. Hein. Il y a 1000 start-up françaises qui font de l'IA. Donc bon, on a les moyens définitivement, on sait comment faire, et donc je pense qu'il faudrait qu'on assume ce biais et qu'on dise, bah, on y va, on va créer des IA qui sont des IA. Encore une fois, on revient sur la spécificité dont je parlais, mais là on va parler maintenant de spécificités culturelles dans des domaines qui sont un peu plus larges que juste les domaines particuliers dont je parlais tout à l'heure.
Merci Luc Julien, on reste avec vous, et parce qu'on a parlé de créativité aussi, on a eu envie avec l'équipe du MAC de vous faire rencontrer Laurent De Robert, docteur en sciences économiques, qui s'est forgé la réputation d'être un mathématicien poète. On reprend après la nouvelle balade de R&B de Kendrick Lamar et SZA, Luther, en hommage au chanteur Luther Vandross sur France Inter. If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fa, 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 fa. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. This a vibe, do your dance, let them watch. She a fan, he a flop, they just wanna kumbaya, nah. This world, concrete, flowers grow. Heartache, she only do what she know. We can get it popping on the low. Better days coming for sure. If it was up to me, I wouldn't give it nobody's no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see you when you wanna see. If this world were mad, everything goes, come and put that on my soul.
from it for sure. If it was up to me, I wouldn't give it nobody no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see you win. Wanna see you.
If this world,
I can lie, I trust you, I love you. I won't waste your time, I'll turn you off just so I can turn you on. I'ma make you say it loud.
C'était Kendrick Lamar et SZA sur Luther, accompagné du sample de If This World Were Mine, chanté par Marvin Gaye.
Le mag de l'été sur France Inter.
Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes toujours avec vous, Luc Julia. Vous avez fait un petit détour par la France entre deux séjours aux États-Unis pour causer avec nous d'intelligence artificielle. Et avec l'équipe du MAG, on en profite pour vous présenter Laurent Desrobert. Laurent, vous êtes docteur en sciences économiques et vous êtes artiste, mais vous êtes aussi randonneur puisque vous nous parlez depuis les volcans d'Auvergne.
Oui, c'est vrai. Là, je suis sous un noisetier, exactement.
Ah bah parfait, vous nous faites rêver dans les studios du 16e arrondissement. Laurent, au cœur de votre démarche se trouvent les mathématiques existentielles. Qu'est-ce que c'est ?
Elles sont un peu à l'image de la magnifique ballade qu'on a entendue tout à l'heure. C'est des mathématiques douces, plutôt chill, où il s'agit plus de prolonger une rêverie que de pathologiquement essayer de régler des problèmes. Et c'est plutôt l'intuition que les mathématiques peuvent nous aider à exprimer les choses sans les expliquer. C'est-à-dire que plutôt que d'expliquer des émotions, on peut exprimer des sentiments grâce au langage de Pythagore et de Bourbaki.
Aux origines de l'argèbre, il y a déjà cette idée de restaurer ce qui a été brisé. C'est ce que vous dites. Vous pouvez nous expliquer ?
Moi, je trouve que c'est fascinant. J'aurais aimé l'entendre, en fait, à l'école, quand j'étais tout jeune. Que l'étymologie de l'algèbre, c'est aljabre, c'est de l'arabe. Et lorsque Al-Khwarizmi invente l'algèbre sous un ciel persan, il utilise précisément ce terme parce qu'en arabe, algèbre, ça veut dire restaurer ce qui a été brisé. C'est vraiment, d'ailleurs, en arabe moderne, ça veut dire le plâtre qui remet les os brisés. Et je crois même que Cervantes, lorsqu'il utilise le terme d'algébriste dans le Don Quichotte, il l'utilise pour parler du chevalier des miroirs qui est capable de remettre les os brisés. Et je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a une dimension thaumaturgique, thérapeutique, douce de réparation du monde, qui est celle de la Kabbale dans les mathématiques qu'on en apprend au collège et au lycée.
Laurent, vous avez publié en 2011 « Fragments de mathématiques existentielles » aux éditions du Delirium. Vous y développez justement ce que vous dites, des vraies équations de l'amour. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer une pas trop compliquée ? Je pense à la formule de la transformation de l'être, par exemple.
De la constance et de l'inconstance de l'être, ça vous va bien, non ?
Oui, c'est bien, très bien.
si vous prenez l'écart qui est entre constance aujourd'hui et constance hier, donc vous avez une distance entre vous et vous-même, que vous pouvez diviser par le temps, et donc vous allez avoir une vitesse de fantomisation de vous-même, en quelque sorte, de transformation de constance. Et si vous l'intégrez dans le temps, alors vous aurez une sorte d'intégrale de votre fantomisation, un peu comme le parcours existentiel que vous aurez opéré. En quelque sorte, tout ce qu'il a fallu que vous cessiez d'être pour devenir qui vous êtes.
Ok, c'est à méditer, je vais m'endormir là-dessus ce soir. Vous comprenez, Laurent Desrobert, que ça paraisse quand même un peu fou d'exprimer l'amour, l'amitié et ce qui relève du monde sensible avec des formules mathématiques ?
Mais parce que c'est une langue, c'est une poétique. Un poème n'a pas de solution, mais il a un vocabulaire, une syntaxe, une grammaire. Et les mathématiques aussi ont un vocabulaire et une grammaire qu'on peut utiliser en plus de façon universelle. C'est-à-dire qu'avec cet algèbre-là, on peut parler du sentiment d'être aimé par les personnes que l'on aime, avec un Chinois, un Tchétchène, un Russe, un Moldave, que sais-je. C'est cette tension universelle de l'expression des émotions et des doutes que j'aime bien développer.
Vous traduisez des grandes œuvres en langage mathématique, par exemple Kundera, qui parle déjà de mathématiques existentielles dans La Lenteur, publiée en 95. Vous nous expliquez comment vous faites ?
C'est lui qui avait eu cette intuition de l'expression même de mathématiques existentielles. En fait, quand j'ai fini le livre dont vous avez parlé et que j'ai cherché son titre, c'était des mathématiques appliquées à l'existence. Donc j'ai pensé à mathématiques existentielles. Tout de suite, je suis allé sur Google et tout de suite, j'ai vu qu'hélas, il y avait un auteur qui en avait déjà parlé, Milan Kundera. Sauf qu'il en avait parlé deux fois pour dire qu'elle n'existait pas. Donc finalement, mon livre, c'est un peu un clin d'œil à toutes ces expressions. Et en particulier, il dit une fois, je me rappelle dans La Lenteur, ou dans L'Immortalité, je crois, que la valeur d'un hasard est égale à son degré d'improbabilité. Si une chose est évidente, alors on la savoure pas. En revanche, si vous avez un dauphin qui arrive au pied de la radio et vous amène un bouquet de fleurs sauvages, alors vous pourrez mesurer sur fond d'impossibilité la valeur de cette offrande. Eh bien ça s'écrit en mathématiques. On peut écrire l'improbabilité et le bonheur qu'elle occasionne.
On entend le vent souffler entre les volcans d'Auvergne par chez vous. Est-ce que selon vous, il faudrait apprendre les maths, apprendre l'algèbre aux enfants de manière plus onirique ?
Je le crois. C'est d'ailleurs la dernière équation que j'ai écrite, c'est que le fait que tout est vent et que rien n'est vain. C'est une traduction de l'Ecclésiaste, où vous vous rappelez, vanité de vanité, tout est vanité. Cette phrase-là, en fait, a été mal traduite du grec, enfin de l'hébreu, et à cause du grec. Et je pense que rien n'est vain et tout est vent. C'est ce qu'on devrait d'ailleurs apprendre à tous les enfants. Alors si c'est fait avec le langage mathématique, pourquoi pas ? C'est aussi une apologie de l'évanescence des bulles de savon, de la légèreté de toute chose. Et je crois que c'est plutôt que de stresser les enfants dès le collège, on devrait même dès la maternelle, on devrait leur apprendre à goûter les choses fragiles de ce monde.
Peut-être que j'aurais aimé les maths avec vous, Laurent et Robert. Cette émission touche malheureusement à sa fin. Les vacances, c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, le bon podcast, c'est encore mieux. Alors, on met quoi dans la valise ? C'est le kit de survie culturelle Luc Julia. C'est quoi votre film d'anticipation préféré ?
J'en ai pas.
Oh là.
Donc, c'est pas compliqué. Anticipation, je la fais.
Ok. Donc, c'est plutôt classe comme réponse.
Voilà, je vis mon rêve et je vis le futur. Donc voilà, l'anticipation, c'est ce que je fais.
Laurent de Robert, le livre à lire pour poétiser, glamouriser les maths, même pour ceux qui ont fait L, comme moi.
Bah, je pensais tout à l'heure, avant d'écouter votre émission, à L'étrenne de Kepler, qui est une magnifique géométrie des flocons de neige. Mais en écoutant la chanson magnifique de Yoa, et sur sa méditation sur les miroirs, je pensais à Lewis Carroll, qui était un grand mathématicien, et De l'autre côté du miroir, ou Alice au pays des merveilles, truffé de mathématiques subtiles.
Luc Julia, l'appli la plus niche que vous adorez ?
Alors, c'est très niche, hein. Ça s'appelle Home Assistant. C'est une app qui me permet de contrôler tous mes objets connectés dans toutes mes maisons. Donc j'ai aujourd'hui à peu près 300-350 objets connectés.
Je crois que vous alliez dire, j'ai aujourd'hui 350 maisons, j'allais dire.
Mais non, j'ai un peu moins, mais j'ai 300-350 objets connectés à travers ces différentes maisons. Et Home Assistant me permet de les connecter et les contrôler et eux aussi, quelque part, me contrôlent.
Ah, Laurent de Robert, votre poème d'amour préféré pour finir ?
Celui de Paul Éluard sur la liberté. Parce qu'on peut ajouter le nom plutôt que liberté de n'importe quelle personne que l'on aime sur les cahiers d'écoliers.
Et ben entre le frigo connecté et Paul Éluard, il n'y a qu'un pas. Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site de l'appli Radio France, évidemment. Merci à tous les deux, Luc Julia. Vous avez publié l'éclairant ouvrage que je conseille vraiment aux auditeurs, IA générative, pas créative. L'intelligence artificielle n'existe toujours pas aux éditions du Cherche Midi. Le documentaire Silicon Fucking Valley est toujours dispo sur la plateforme Arte. Je vous le conseille également. Vous, Laurent de Robert, on peut se procurer vos fragments de mathématiques existentielles, évidemment. Joyeux et joli mois d'août à tous les deux. C'était le Mac de l'été avec Louis Tempero, Tarana Touri et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission, Étienne Bertin à la réalisation, assisté d'Amazir Amadein Guest et d'Étienne Kenel à la technique, Benjamin Wagon.